Eh bien, je crois qu'il est temps pour nous aussi de faire un peu le bilan de cette période. Hein, quand je dis nous venons de chanter « Fort et Dieu dans la bataille », malgré tout, il y a une bataille, effectivement. Il y a eu un combat spirituel qui n'est pas fini, d'ailleurs. Hein. C'est un temps d'épreuve aussi pour les croyants, c'est un temps d'épreuve pour l'Église. Hein, et je notais qu'effectivement, l'Église est en quelque sorte en convalescence, quelque part, si on peut dire. Beaucoup de ses activités, beaucoup de ses moyens d'action, d'influence ont été mis en sommeil pour un temps. Hein, nous avons vu les réunions de jeunes, l'évangélisation dans la rue ou au porte-à-porte, ces choses qu'on pratiquait, le colportage, les réunions d'enfants, les rencontres d'assemblées, les conventions, les repas en commun, camp de jeunes. Et même dans les activités qu'on reprend, on s'aperçoit qu'il y a des besoins, il y a des choses qui sont à regagner. Mais grâce au Seigneur, nous allons regagner le terrain progressivement, nous allons regagner petit à petit. Et en même temps, eh bien, je crois que c'est le temps de la gratitude et le temps de la reconnaissance aussi. Hein, et de la reconnaissance, mais envers qui ? Bien sûr, envers le Seigneur, mais aussi eh bien, je voudrais manifester aussi notre reconnaissance envers les uns et les autres, hein, dans la façon dont ils ont soutenu l'Église. Allez, déjà, je dois me rappeler plusieurs façons dont l'Église a pu être soutenue, que ce soit remercier, bien sûr, tous ceux qui ont soutenu au travers de la prière, hein, que ce soit de leur prière personnelle, que ce soit aussi, ben, on avait notre petit circuit WhatsApp, là, qui existe toujours, je pense, et puis ou des petites réunions, quelques-uns, que les uns ou les autres ont pu avoir de manière informelle. Ceux qui ont soutenu dans la prière, qu'ils soient bénis, voilà. Que soient soutenus aussi, que soient bénis aussi, pardon, ceux qui ont soutenu dans le soin des relations. Hein, pendant cette période-là, ceux qui ont veillé à la communication, ceux qui ont pris l'initiative de téléphoner, ou d'autres moyens pour prendre des nouvelles de leurs frères et sœurs sans attendre peut-être forcément qu'on leur téléphone, hein, mais qui ont fait cela. Ça, c'est aussi quelque chose de précieux, qui a été très précieux pendant toute cette période-là. Que soient remerciés aussi ceux qui ont rendu de précieux services. Hein, il y a eu des services pratiques, hein, qui ont été rendus par le soin attentif qu'ils ont pris les autres. Ils ont été des soutiens pour ceux qui étaient fragiles, pour ceux qui étaient âgés ou qui étaient dépendants. Qu'ils soient remerciés, qu'ils soient bénis. Hein, parce que ça aussi, c'est quelque chose de précieux pour justement la vie de l'Église, même si elle était bien sûr un petit peu moins pratique sur le terrain. Moins forte qu'elle ne l'a été auparavant. Et puis que soient remerciés aussi ceux qui ont soutenu financièrement, matériellement, hein, parce qu'il a été permis de cette manière à ce que soient fait face aux charges, aux obligations, aux factures, parce que vous savez, même si le courrier a du mal à arriver, les factures, elles, sont toujours arrivées, je ne sais pas si c'est comme vous, mais en tout cas, chez nous, c'était comme ça. Voilà. Et puis que soient remercier aussi ceux qui ont soutenu en écoutant la prédication et les témoignages de l'Église. Vous savez que nous avons eu à cœur de maintenir tout au long du confinement 3 prédications par semaine avec des témoignages. Hein, donc une prédication pour la prière et l'édification chaque semaine, une prédication en ligne aussi pour l'évangélisation, l'édification, et puis une prédication de culte. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont juste envoyé leurs ouailles sur YouTube pour les prédications, hein, sans rien chercher, parce que je ne cherche pas ce genre de nouvelles, mais simplement il m'est venu aux oreilles le fait que deux grosses assemblées qui ont plusieurs pasteurs, leurs ouailles n'ont eu plus aucune nouvelle de leurs pasteurs pendant toute la période, quoi. Et donc je vous dis quand même, hein, je dis quand même que c'est quand même, on peut remercier le Seigneur, donc alors on dit aux gens qu'il faut qu'ils aillent écouter l'Évangile sur les réseaux sociaux. Dieu merci, l'Évangile est aussi prêché sur les réseaux sociaux. Hein, c'est une bonne chose. Mais moi je crois, et la parole de Dieu nous dit, c'est pour ça que je le crois, que le Seigneur a un message particulier pour chaque église. L'Évangile c'est le même pour tout le monde. Mais Dieu a un message particulier pour chaque église. Lorsque vous regardez l'apôtre Paul, pour lui il était convaincu que le message adressé à l'église d'Éphèse, ce n'était pas le même que celui qui était adressé à l'église de Corinthe. Hein, que le message adressé aux chrétiens de Philippe n'était pas le même que celui qui était adressé aux Galates. Lorsque vous regardez l'apôtre Jean, au début de l'Apocalypse, vous voyez bien que le message pour l'église de Pergame n'est pas le même que celui pour l'église de Smyrne. Et pourtant, ces églises étaient à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre géographiquement. Le message à l'église de Thyatire, eh bien, différait nettement de celui qui était donné à l'église de Sardes, même si ces églises étaient voisines. Alors oui, c'est vrai, bien sûr, le même évangile était prêché dans tous ces endroits, mais Dieu a un message pour son église, et ceux qui aiment leur église, ceux qui soutiennent leur église, qui veulent vraiment faire connaître la volonté de Dieu, eh bien, je crois qu'ils prennent aussi cela à cœur. Alors, vous savez, moi je ne sais pas qui parmi vous a fait quoi. C'est Jean-Baptiste qui s'occupait essentiellement de la mise en ligne. Je ne lui ai jamais demandé combien de personnes écoutaient, hein, Jean-Baptiste. Je n'ai jamais demandé ça, ni qui. Donc, c'est pour ça que j'ai une grande liberté aujourd'hui pour vous dire voilà, que chacun examine son cœur. Je crois qu'en même temps, c'est aussi une période de test, de se mettre, de faire soi-même le bilan et de se dire, bon, voilà, par rapport justement à ces divers éléments, où est-ce que j'en suis, hein, qu'est-ce qui dans ma vie, quelles sont les choses pour lesquelles je peux bénir Dieu, je peux remercier le Seigneur, puis quelles sont celles peut-être mais, hein, où il y aurait des progrès à faire, que chacun s'éprouve soi-même, dit l'Écriture. Hein. La parole de Dieu est claire sur ce point-là. Et puis bien sûr, surtout, que ce soit le Seigneur qui soit remercié au-dessus de toute chose. Hein. Parce que c'est lui qui a été fidèle en pourvoyant aux besoins des siens, en les secourant de toute façon. Vous savez, dans ce confinement, nous avons eu au moins deux personnes qui auraient dû mourir. Hein. Deux personnes pour lesquelles médicalement il n'y avait plus d'espoir. Hein, qui, d'après les médecins de leur hôpital respectif, n'avaient plus que pour 72 heures à vivre. Hein. Donc, et suite à la prière donc, des uns, des autres, et bien sûr à la manifestation de la grâce de Dieu, elles ont toutes les deux été visitées, elles ont toutes les deux été ramenées à la vie, et elles sont en ce moment-là en convalescence ou en guérison, en même temps qu'en confiance au Seigneur. Donc ça, c'est quand même des choses très réjouissantes. Je rappelle aussi que dans un temps où il n'était vraiment pas facile de contacter un dentiste ou un médecin, vous vous souvenez, hein, il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça encore, eh bien plusieurs ont téléphoné avec différents mots, et je bénis le Seigneur parce qu'on a vu que le Seigneur les a soulagés à chaque fois. Hein. Nous avons eu des guérisons de maux de dents, des guérisons de maux de ventre, des guérisons de maux de dos, des jambes rallongées, des guérisons de maux de tête, de palpitations cardiaques. Hein, et suite à la prière de la foi, même faite par téléphone, hein, le Seigneur n'est pas limité dans ces circonstances. Et puis, c'est vrai, nous avons pu aussi prier pour divers besoins qui ont été pourvus miraculeusement. Il y a eu des manifestations évidentes de la protection de Dieu. Nous avons vu aussi des personnes nouvelles s'approcher du Seigneur, hein, parce que le Saint-Esprit n'est pas limité par le confinement, vous savez. Hein. Donc, et bien au contraire, quand quelqu'un le cherche de tout son cœur, eh bien, le Seigneur se révèle à lui ou à elle. Alléluia. Et puis, je n'oublie pas que le Seigneur nous a admirablement protégés de la Covid-19 en tant qu'Église. Hein, donc, au début du confinement, hein, donc fin février, même avant, nous aurions pu effectivement être gravement contaminés en trois occasions dont j'ai eu conscience par après, et nous avons réchappé. Et je remercie le Seigneur parce que nous avons tous réchappé. C'est une grande grâce de la part de Dieu. Alors, nous avons des raisons de bénir et de remercier Dieu. Alléluia. Hein. C'est un jour de reconnaissance, d'action de grâce particulier. Et c'est précieux et important que nous puissions nous en souvenir et que nous puissions le faire. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6 et au verset 8. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 8. Nous lirons jusqu'au verset 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?»« Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. » Amen. Ah, voilà un récit qui est truffé de miracles. Vous voyez, hein, des miracles, d'ailleurs, des miracles un peu de la même espèce, on va le voir. Vous avez les miracles, parce que c'est arrivé plusieurs fois, des intentions du roi de Syrie qui sont dévoilées, hein, verset 8 au verset 13. Ensuite, vous avez le miracle des yeux du serviteur du prophète qui sont ouverts. Et puis vous avez bien sûr le miracle des chevaux de feu, des chars de feu autour d'Élysée. Et puis vous avez aussi les miracles, oui, parce qu'ils étaient toute une équipe, de cette troupe syrienne qui a été frappée d'aveuglement. Et puis vous avez encore le miracle de la troupe syrienne rendue à la vue. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs que chacune de ces quatre séries de miracles, il est question, beaucoup question de vue, de voir, ou alors de voir même, de saisir, de comprendre en même temps. Et c'est vrai que ça nous rappelle une grande règle, un grand principe, c'est que Dieu voit tout et qu'il fait voir à l'homme ce qu'il veut. Dieu voit tout et fait voir à l'homme ce qu'il veut. Alors ensemble, eh bien, nous pourrons voir plusieurs chapitres, et voici le premier. Le premier nous parle du miracle des intentions du roi de Syrie qui sont dévoilées, c'est-à-dire cette réalité du fait que Dieu voit et que Dieu connaît toutes choses. Vous savez, les ennemis du peuple de Dieu sont très malins dans leurs intentions, dans leurs desseins, et ils en font toutes sortes de tentatives contre le peuple de Dieu, mais tout est connu du Seigneur, hein, même ce qui est caché au plus profond, et Dieu sait non seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils pensent, et Dieu a donc tous les moyens de les contrecarrer et de les arrêter. Et même ce que le roi de Syrie disait dans le secret était proclamé sur les toits du royaume d'Israël de cette manière-là. Vous savez, Dieu voit et connaît toutes choses, et c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire et de solennel, et je crois que c'est un encouragement pour les uns et un avertissement pour les autres. On oublie, on raconte l'histoire de cet homme qui allait voler des légumes dans le jardin de son voisin. Alors il a emmené avec lui son petit garçon pour faire le guet, pensez donc une belle éducation pour le petit garçon déjà, et puis pour l'avertir si jamais quelqu'un vient. Et avant de commencer, bien sûr, il a regardé tout autour pour s'assurer que personne ne venait, d'un côté, puis de l'autre. Et ne voyant personne, donc, il se prépare à franchir la haie du voisin. Et il amène son sac pour commencer à le remplir. Et voilà que son fils s'écrie, « Papa, il y a une direction, tu n'as pas encore regardé !» Alors, le père croit que quelqu'un est en train d'arriver. Il demande à son fils ce qu'il veut dire. Et il répond, « Tu as oublié de regarder en haut. » Tu as oublié de regarder en haut. Et le père, touché dans sa conscience, a pris le petit garçon par sa main, il s'est empêché de rentrer, il a laissé les légumes là où ils étaient. Hein. Et c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Vous savez, on peut gens essayent, parfois, oui, des fois souvent même, ils essayent de cacher aux yeux de ceux qui les entourent des choses. Les gens ne cachera rien à Dieu. Et vous savez, même ceux qui nous entourent, hein, tôt ou tard, ils vont finir par se douter de quelque chose. Hein, si on reste dans ce problème, dans cette situation qu'on veut cacher, les gens ils vont finir par discerner quelque chose quand même. Hein, ils vont le sentir. Peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir définir la chose complètement, mais vous savez, on ne trompe pas toujours, on trompe pas tout le monde tout le temps. Hein, ça ne fonctionne pas, ça. Déjà, il faut quand même le savoir. Alors, si nos semblables peuvent le discerner, bien sûr, à combien plus forte raison Dieu lui-même. Un autre témoignage, c'est celui de ce prédicateur qui, un jour, parlait dans son message, dans sa prédication, de l'importance de confesser ses péchés à Dieu et puis ensuite de faire restitution, autant que possible, du tort qui a pu être fait à autrui. Voilà. Et après la réunion, voilà qu'un jeune homme s'avance et il s'adresse à lui et dit « Pasteur, vous m'avez mis dans une triste situation parce que j'ai trompé quelqu'un et j'ai honte de lui confesser et d'arranger la chose pour que ce soit juste. » Parce qu'il était ouvrier dans un chantier naval et le patron pour lequel il travaillait était un incrédule et il dit « Voilà, je lui ai parlé souvent de ce besoin de Christ. Je l'ai pressé de venir vous écouter, mais il se moque toujours de moi et puis il ridiculise tout. Et puis dans mon travail, eh ben, on utilise des clous en cuivre parce qu'ils ne rouillent pas dans l'eau, mais ils sont très chers. Alors j'en ai emporté beaucoup à la maison pour la construction du bateau que je fais dans le fond du jardin derrière chez moi. » Voilà. Et le sermon du pasteur lui a fait réaliser qu'en fait, il n'était qu'un voleur. Voilà. Et, mais dit-il, je peux parler chez mon patron pour lui dire ce que j'ai fait ou offrir de lui payer ce que j'ai utilisé. Si je le fais, il va dire que je suis un hypocrite. Alors, voilà, mais, et pourtant, il rajoute, ces clous de cuivre sont enfoncés dans ma conscience et je sais que je n'aurai jamais la paix jusqu'à ce que j'ai mis cette chose en ordre. Puis, quelque temps plus tard, il revient à la réunion et il dit, « Pasteur, écoutez, j'ai arrangé l'affaire des clous en cuivre hein, et ma conscience est enfin soulagée. » Alors, le pasteur lui demande, « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton patron quand tu lui as confessé ?» Vous savez ce qui s'est passé ? Il m'a dit. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Georges, j'ai toujours pensé que tu étais un hypocrite. Mais maintenant, je commence à croire qu'il y a quelque chose dans cette religion chrétienne dont tu me parles quand même. Parce qu'une religion qui fait confesser un ouvrier malhonnête qui a volé des clous en cuivre et qui offre de les réparer, ben ça doit quand même valoir quelque chose après tout. » Vous voyez ? Hein, ça, c'est vrai, vous savez, Dieu connaît les cœurs. Et c'est Dieu aussi qui touche les consciences. Hein. Et il parle, et oui, il parle par le moyen, bien souvent, des prédicateurs, par le moyen de la parole de Dieu, comme d'ailleurs comme dans notre passage qui est là. Et c'est un grand avantage pour nous, pour chacun d'entre nous, d'être averti, éventuellement de notre péril, de notre danger, pour que nous puissions nous tenir en garde contre lui. Hein, le travail du prophète de Dieu, de serviteur de Dieu, c'est de nous avertir, de nous exhorter pour cela, pour notre bien. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs, c'est assez attristant de considérer que le roi d'Israël a été capable d'écouter tous les renseignements qu'Élisée lui donnait sur le roi de Syrie et de croire à tous ces renseignements. Par contre, lorsque le prophète lui a parlé de ses propres péchés à lui, là il n'a pas voulu écouter, il n'a pas voulu en tenir compte. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose qui est extrêmement dommage pour lui, parce que c'est quelque chose qui a des conséquences éternelles, si on ne s'en repent pas. Mais voici notre deuxième miracle qui nous parle d'une autre grande vérité, complémentaire. Dieu ouvre les yeux de ceux qui se confient en lui. Alléluia. Et ça, c'est le miracle des yeux du serviteur du prophète qui ont été ouverts. Donc, on voit cela. Ce serviteur, ce n'était pas encore un homme de grande foi. Il avait cependant quelques circonstances atténuantes, parce que Géasi, le serviteur précédent, rappelez-vous, avait été infidèle, et il avait été frappé par Dieu, et lui donc, il était nouveau, en quelque sorte, dans le service de Dieu. Il n'avait pas encore fait l'expérience de la puissance de Dieu, et spécialement de la présence et de la protection constante du Seigneur. Alors, Dieu est patient avec lui, et Dieu va répondre positivement à la prière du prophète en sa faveur. Et les yeux de sa foi vont être ouverts, il va faire une expérience qu'il n'oubliera pas et qui lui fera désormais réaliser la protection divine parfaite de Dieu sur ceux qui le servent. Vous savez, quand je lis dans Deux Rois 6, donc au verset 15, cette parole du serviteur, mais je me dis, mais ce gars, il a vraiment fait quelque chose de bien. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Voyez, c'est une excellente réaction de sa part. Pourquoi, dans cette difficulté qui paraissait sans issue, une réaction tout à fait exemplaire pour chacun d'entre nous, parce que, voyez-vous, ils étaient assiégés, ils étaient confinés, hein, là, ils étaient vraiment confinés, pressés par l'ennemi, dans un grand péril, et dans l'affolement, il aurait pu réagir de toute autre façon. Hein, il aurait pu se dire, il faut qu'on aille chercher, je vais chercher une cachette pour moi, pour mon maître, je vais courir le long des rues pour voir s'il n'y a pas une issue par laquelle on pourrait se sauver, ou bien aller chercher des déguisements, j'en sais rien, moi, hein, je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire, mais sa première réaction, voyez-vous, ça a été de s'adresser au prophète, à l'homme de Dieu, pour lui demander son avis, pour lui demander conseil, pour lui demander ce qu'il fallait faire et demander comment il fallait le faire. Je pense qu'un des grands problèmes de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est de ne pas demander avis, c'est de ne pas demander conseil, c'est de prendre des décisions, c'est de faire des choix et de finalement faire ce qui leur semble bon. Et trop souvent, malheureusement, tout ça, ça finit avec des échecs, des conséquences parfois catastrophiques dont il faut supporter les effets pendant des années. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui sont très attachés à leur liberté. Mais vous savez, c'est vrai, la liberté, c'est une belle chose. Mais la liberté, c'est aussi une responsabilité. Et la liberté, ça se gère, mes amis. La liberté, c'est quelque chose qui se gère. Hein, se disant cela, ils sont persuadés aussi qu'il y a des tas de domaines dans lesquels le serviteur de Dieu, par exemple, n'a rien à voir. Dans l'église, dans lesquelles l'église n'a pas à se mêler, et il ne se pose même pas la question s'il y aurait un avis et un conseil à demander. Et après, il s'étonne. Après, il s'étonne de se retrouver dans l'échec et parfois la catastrophe avec des conséquences, quand il veut bien admettre qu'il y a un échec. Vous savez, un échec, ce n'est pas forcément la pire des choses. On peut avoir des échecs dans sa vie, déjà si on sait les reconnaître, et puis ensuite si on sait en tirer les leçons. Si on reconnaît son échec, qu'on y réfléchit et qu'on en tire les leçons, après on peut se relever, on peut avancer dans la bonne direction. Hein, puis à ce moment-là, l'échec va avoir beaucoup d'effets qui vont être positifs. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent même pas admettre ça. Ils ne veulent même pas reconnaître qu'il y a eu un échec. Ils vont dire, non, c'est Dieu qui a changé les choses, Dieu a changé d'avis, les choses vont dans cette direction-là, que sais-je. Et puis, voilà, la réalité, c'est leur obstination. La réalité, c'est bien trop souvent le refus de perdre la face ou leur orgueil. Et le problème, c'est que s'ils continuent dans ce chemin-là, cette pente qui descend en fait, hein, cette pente qui est celle de la facilité, sans chercher la volonté de Dieu, sans demander conseil, en suivant toujours leurs propres envies, toujours leurs propres désirs obstinés, il est à craindre qu'à un moment, le diable puisse avoir accès, mes amis. Il est à craindre qu'un terrible piège puisse se présenter. Pourquoi ? Bien parce que ils croient qu'ils sont dans le chemin de Dieu, mais en fait, ils n'y sont plus. Et ça, c'est une réalité à laquelle il faut vraiment prendre garde. C'est vraiment quelque chose à quoi il faut faire attention. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais alors, quelqu'un dira, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut demander avis pour tout au pasteur ? Faut-il lui demander conseil pour la moindre chose ? Vous voulez infantiliser les chrétiens ou quoi ? Et en même temps, vous prétendez que les serviteurs de Dieu sont infaillibles et qu'ils doivent se mêler de tout et avoir un avis sur tout. Vous savez, si quelqu'un pose ce genre de questions, en même temps, bien, ça dévoile aussi quelque part la malhonnêteté d'une telle attitude, parce que c'est aller à l'extrême inverse, hein, évidemment. Hein. Évidemment qu'un serviteur de Dieu n'est pas infaillible, on est bien d'accord. Hein. Mais encore que l'expérience spirituelle, la connaissance de la parole de Dieu, la communion avec Dieu et souvent l'expérience de la vie peuvent être des moyens de conseil extrêmement précieux dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup de situations, et ça peut vraiment être d'un très grand secours. Mais remarquez ce que le prophète dit dans notre passage lorsque son serviteur lui pose la question « Ah bon Seigneur, comment ferons-nous » Qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui donne pas de grands conseils. Hein. Il ne fait pas un étalage de sa science, il ne fait pas de grandes démonstrations. Premièrement, il appelle à ne pas craindre, dans le début du verset 16. Ensuite, il proclame la réalité de la puissance divine, la réalité du secours divin, et puis il adresse au Seigneur. Cette courte mais instante prière, ô Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas la peine de courir partout. Hein. C'est pas la peine de t'agiter dans tous les sens. C'est pas la peine d'échafauder des plans qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu, hein, de foncer dans des chemins qui sont sans issue. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir les yeux ouverts sur la réalité de la présence de Dieu, sur la réalité de la puissance de Dieu. Et pour ceux qui font ainsi, pour ceux qui se confient ainsi au Seigneur, Dieu a la réponse. Dieu a la solution, Dieu a la délivrance, Dieu a la victoire et Dieu va ouvrir une porte d'espérance. Lorsque je lis dans Josué chapitre 1, versets 7 et 8, rappelez-vous, verset 8, pardon, il est marqué « Que ce livre de la loi, cette parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Cette promesse, elle est absolue. Elle est absolue et je dirais non seulement cela, parce que dans le verset suivant, il est marqué « Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Voilà. Hein? Alors, pourquoi les échecs? Alors, moi, mon frère, ma sœur, si tu peux lire ta Bible 5 heures par jour, hein? Mais tu ne demandes pas conseil. Tu peux encore ajouter 10 heures de prière en même temps par jour, tu vas probablement aller dans le mur à cause de ça. Hein? Parce que qu'est-ce qu'il est marqué justement dans cette Bible que tu prétends lire avec tant d'ardeur? Qu'est-ce qui est marqué dans les Proverbes, par exemple? Proverbes 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Proverbes 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Vous savez, on est dans une guerre, hein? Une guerre spirituelle. Hein? Proverbes 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Mes frères et sœurs, nous n'imaginons pas les solutions merveilleuses que le Seigneur a. Si nous savons chercher le conseil, chercher les avis spirituels, chercher réellement la révélation de Dieu sans nous laisser affoler et obnubiler par une situation, que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre nous en cela. Amen. Voilà, vous avez peut-être entendu l'histoire de cet athée qui un jour voyait un chrétien de sa connaissance et puis lui demande où il va. Et puis il dit, je vais à l'assemblée. Et pourquoi faire? Il lui demande. Pour y adorer, pour y louer Dieu. Alors l'autre, un petit peu narquois, lui dit, mais dis-moi, ton Dieu, c'est un grand Dieu ou un petit Dieu? Réponse, il est les deux. Alors, comment ça? Comment ça, il est les deux? Comment est-ce qu'il peut être les deux? Eh bien, réponse, il est si grand que le ciel ne peut le contenir, et si petit qu'il peut toujours demeurer dans mon cœur avec moi. Et l'athée a été obligé d'admettre par la suite que cette simple réponse n'avait plus affecté que des quantités de livres érudits et savants qu'il avait pu lire auparavant. Vous savez, un croyant, c'est quelqu'un qui a donc les yeux véritablement ouverts, les yeux de la foi, et qui peut ainsi voir, qui peut saisir la bénédiction là où autour de lui les autres ne voient et ne saisissent rien du tout. Et il peut demeurer à cause de cela dans la paix, dans le calme et dans le repos du Seigneur. Amen. Vous savez, quand je reviens à notre récit de départ, rappelez-vous combien ces gens étaient confinés, combien ces gens étaient assiégés, et nous pouvons imaginer les sentiments divers qui agitaient l'esprit des uns et des autres. Certains qui étaient terrifiés, qui étaient désespérés. Vous savez, en cas de guerre, les choses terribles qui peuvent se produire, les exactions, les excès qui se produisent, et ils craignaient qu'à cause de cela. D'autres étaient remplis d'une sombre résolution, désespérés, mais décidés à vendre chèrement leur peau, en défendant leur foyer, en défendant leur famille. Et puis d'autres encore se demandaient comment s'en tirer par la ruse, peut-être en faisant des compromissions avec l'ennemi. Et puis certains se préparaient certainement à fuir. J'ai dit, moi j'ai les bonnes jambes, je peux courir vite, je peux courir loin. Mais tant pis pour ceux qui ne courent pas assez vite. Et puis la règle du sauf qui peut, et chacun pour soi. C'est quelque chose qui allait prendre le dessus, certainement. Sans parler de ceux qui allaient profiter de la disparition momentanée de l'ordre public pour commettre toutes sortes de méfaits, parce que ça aussi, ça existe dans ce genre de situation-là. Mais au milieu de tout ça, vous aviez cet homme de Dieu et vous aviez ce serviteur qui était avec lui et tous ceux qui voulaient bien être avec lui. Et l'assurance de la protection de Dieu et de l'action miraculeuse de Dieu en leur faveur. Parce que remarquez bien ce qui est marqué. Il n'est pas écrit L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit que la montagne pleine de chevaux de feu et de chars de feu autour de la ville, mais autour d'Élysée. C'est ça qui est marqué. Hein ? Et je crois que c'est un grand encouragement pour ce serviteur qui a eu cette révélation-là et pour tous ceux qui étaient avec lui. Et combien il est bon que nous puissions aussi examiner notre propre expérience de ce que nous avons vécu ces mois derniers, ou peut-être même de ce que nous vivons en ce moment, à la lumière de cet enseignement de la bonne parole du Seigneur. Amen. Et puis, si j'avance, voici mon troisième chapitre. Le miracle de la troupe syrienne frappée d'aveuglement, une image de la situation de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui ne veulent pas se tourner vers lui. Remarquez la façon dont ils ont été frappés d'aveuglement. Ce n'est pas qu'ils étaient dans l'impossibilité totale de voir, sinon ils n'auraient pas pu suivre le prophète à Samarie comme ils l'ont fait. Mais cet aveuglement, c'était un état dans lequel, en voyant, on est incapable d'apprécier ce qu'on voit. Hein, quelque part. Leur vision, leur compréhension des choses était tellement déformée qu'ils ne discernaient même pas vraiment les lieux où ils étaient, ni qui étaient vraiment les personnes qui leur parlaient. Voyez-vous, c'est cela. Et un tel miracle n'est pas unique dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez par exemple dans la Genèse, chapitre 19, lorsque vous voyez que les méchantes gens de Sodome ont voulu agresser les envoyés de l'Éternel qui étaient dans la maison de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Vous lisez au verset 11, c'est qu'ils ont voulu forcer la porte de la maison et l'ange de l'Éternel a étendu la main et tous ces gens étaient frappés d'aveuglement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voyaient les choses autour d'eux, ils voyaient les gens autour d'eux, ils sont devant la maison de Lot, la porte est tout près d'eux, mais ils ne la voient pas parce que Dieu a aveuglé leurs yeux et qu'il a obscurci leur entendement. Vous savez, nous pouvons même voir que c'est une façon de faire de Dieu habituelle envers ceux qui ne veulent pas de l'Évangile, qui ne veulent pas se tourner vers Christ. Moi, j'ai vu ça des quantités de fois dans cette église. Dans cette église, j'ai vu des quantités de fois des gens qui ont été au bénéfice d'un miracle signalé, et c'était quelque chose d'extraordinaire, et je voyais que ceux, bon après, je n'ai pas vu tous les détails forcément de chacun, mais ceux qui avaient la foi vraiment réalisaient cela, et les autres, eh bien, ils ressortaient comme si rien ne s'était passé. Et ils n'auraient même pas été capables de dire qu'il y avait eu un miracle ce jour-là. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de la disposition de leur cœur, incapables de voir le miracle de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur, le prophète dit dans Ésaïe au chapitre, le Seigneur dit par Ésaïe au chapitre 6 au verset 9, il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. » Endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et vous savez ce passage, il est repris 5 autres fois dans la parole de Dieu, 5 autres fois dans le Nouveau Testament. Hein ? Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15, Marc 4, verset 12, Luc 8, verset 10, Jean 12, verset 40, donc dans les 4 évangiles, pour montrer comme c'est important, et dans la fin du livre des Actes encore. Au chapitre 28, versets 26 et 27. Dieu aveugle vraiment les hommes parce qu'ils ne veulent pas lui obéir, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à lui, parce qu'ils ne veulent faire que ce qui leur plaît. Si c'est marqué 6 fois dans la parole de Dieu, c'est qu'il s'agit vraiment d'un principe d'action et qu'il s'agit vraiment de quelque chose d'important. Hein. Ça veut dire que tu as beau penser faire partie du peuple de Dieu. Si tu ne cherches pas le royaume de Dieu en premier, tu seras sourd et tu seras, surtout, tu resteras aveugle, même si tu crois voir. Regardez de l'Apocalypse, les chrétiens de la Odyssée. Le Seigneur dit, tu crois que tu es riche, tu crois ceci, tu crois... Et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Voilà. Tu ne sais pas que tu en es là. Tu crois que tu vois, tu es chrétien, tu fais partie d'une église, tu es une église. Et tu ne sais pas que... Vous voyez le problème? Le problème, c'est ça. C'est, si Jésus n'est pas le Seigneur et le roi de ta vie, eh bien, tu ne verras même pas le plan de bénédiction pour ta vie. Tu ne discerneras même pas. Si tu ne mets pas Jésus sur le trône, si tu n'arrives pas à dire du fond de ton cœur, par le Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, ben Dieu ne dirigera pas ta vie. C'est ta nature charnelle qui le fera. C'est le diable qui le fera à l'occasion. Et il pourra même contrefaire des apparences spirituelles. Il te donnera même des miracles. Aucun problème pour lui. Hein ? Ouais, il fera. Mais tu manqueras le chemin de Dieu pour ta vie. Et puisque tu n'as pas pu dire, non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne, eh bien tu resteras dans cette crainte, tu ne verras pas, tu ne réaliseras pas la montagne pleine de chars et de chevaux de gloire. Mais si tu mets le Seigneur en premier dans ta vie, eh bien, il va t'ouvrir les yeux pour que déjà tu puisses commencer par contempler les merveilles de sa loi. Vous savez, moi je lisais un petit peu ma Bible comme ça, mais c'était presque une punition. Hein, j'avais commencé à suivre un petit peu le Seigneur, mais je voulais bien de Jésus comme sauveur. Qui c'est qui voudrait aller en enfer ? Personne. Hein, mais Jésus mon Seigneur, ah, ça c'était autre chose. J'aimais bien faire ce qui me plaisait. Hein. Mais le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, il y a une révélation qui s'est faite par la parole de Dieu. Alléluia. Et cette révélation, elle se poursuit. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Hein, voilà. Si tu apprends à venir demander conseil et avis pour connaître aussi oui, le chemin de Dieu, la volonté de Dieu, eh bien, tu pourras aussi voir les chars de feu et les chevaux de gloire. Si Jésus est vraiment sur le trône de ta vie, eh bien, tu pourras aussi être enlevé dans la gloire par ces chevaux de gloire dans la présence de Jésus. Oui, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Amen, alléluia. Vous savez, le monde est toujours comme dans cette fable où vous avez la conversation d'un oiseau, d'une taupe, c'est une petite fable, et cette taupe vient juste de sortir la tête de son trou. Et puis elle dit à l'oiseau d'un air agacé, « Pourquoi est-ce que tu fais du bruit comme ça ?» L'oiseau est là, l'oiseau il se balance en chantant sur sa branche, bien sûr. Et puis l'oiseau lui dit, oh ben, le soleil, les arbres, l'herbe verte, la rivière qui brille là-bas, les nuages blancs au flanc de la montagne, le monde est rempli de beauté, quelle raison de s'émerveiller. Et puis la taupe lui dit, quelle bêtise, j'ai vécu dans le monde plus longtemps que toi, j'y ai creusé bien plus profondément, je l'ai traversé, j'y ai creusé bien des galeries, et je te dis qu'il n'y a rien d'autre que des vers de terre et des courtilières. Voilà. Et vous savez, de même que la taupe est aveugle, les hommes sont aveuglés à cause de leur propre volonté rebelle et de leur manque de soumission à Dieu. Combien sont aveuglés comme cet avare ? Il y en a qui sont aveuglés par l'amour de l'argent. C'est une chose terrible, ça. Hein ? Il était sur son lit de mort et sa misérable passion le tenait bien encore, même jusqu'aux approches de la mort. Et il s'exclamait, « Éteins la lumière, Marie !» Alors Marie dit, mais mon oncle, supposez que vous ayez besoin de quelque chose. Éteins, on n'a pas besoin de lumière pour mourir. Ah oui, mais bien sûr qu'on a besoin de lumière pour mourir. Hélas, pour ceux qui n'ont pas de lumière pour mourir. Hein. Donc, pour ceux qui ne peuvent que répéter les dernières paroles d'un incrédule célèbre, je fais un saut dans l'obscurité et dans les ténèbres. Mais voici le contraste. Le contraste de ce vieillard chrétien qui était mourant et sa femme lui dit tendrement, « Est-ce que Jésus est avec toi dans la sombre vallée ?»« Sombre vallée » murmura-t-il. « Elle n'est pas sombre. Elle devient de plus en plus lumineuse, ma chérie. »« Oh » murmura-t-il, « elle est si lumineuse maintenant qu'il me faut fermer les yeux. » C'est vrai. C'est ainsi qu'elle s'en alla pour être pour toujours avec Jésus qui a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Béni soit son nom. Alléluia. » Vous savez, les hommes prouvent leur aveuglement de temps et de temps de façon. Ah, je me souviens encore. Vous savez, moi, je suis abonné à Cours International. Bon, c'est juste en passant. Et puis, là, vous aviez encore quelques mois en arrière. Il vous faisait des prévisions. Il vous annonçait plein de choses qui allaient se passer. Et puis, voilà un petit virus qui arrive. Tout est par terre. Toutes les prévisions sont par terre. Tout est... Hein ? Ça veut dire quoi ? Les hommes disent paix et sûreté. Et une ruine soudaine les surprendra. Ben, c'est comme ça que ça se passera, vous savez. C'est un avertissement. C'est un avertissement, je pense. Hein. Et puis, les hommes croient qu'ils sont sur la voie du succès. Et puis, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur la voie large qui mène à la perdition. Et puis, ils croient parler, je ne sais pas, à un ami. Et en fait, c'est quelqu'un qui les entraîne loin du salut, loin de la bénédiction. Peut-être même souvent sans s'en rendre compte, parce que ce sont les aveugles qui conduisent des aveugles. Hein. Et combien, à cause de cela, eh bien, il est nécessaire de venir, ou vraiment de revenir à Jésus, parce que lui seul est capable de nous ouvrir les yeux, lui seul est capable de rétablir l'entendement, lui seul est capable de nous faire réaliser les choses vraies et de voir exactement où nous en sommes, de nous tirer de notre égarement et de nous mettre dans la bonne voie. Amen, amen. Et nous voici au miracle suivant, celui de la vue rendue à la troupe syrienne, et ça c'est une image de la manière dont Dieu ouvre les yeux aux hommes afin de leur faire grâce. Et ça, c'est également très précieux à cause de cela. Pourquoi est-ce que le prophète a prié pour que ce miracle ait lieu ? Et pourquoi Dieu aurait-il répondu ? Certainement pas pour détruire ces hommes, parce que sinon, il n'y a pas besoin de leur ouvrir les yeux. Hein ? il n'y avait qu'à les liquider sans qu'ils s'en rendent compte. Mais, justement, Dieu voulait qu'ils se rendent compte de leur situation et qu'ils crient au Seigneur pour être sauvés. Imaginez la terreur qu'ils ont éprouvée lorsque leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont souvenus, à ce moment-là, de toutes les incursions qu'ils avaient faites eux-mêmes en Israël, des pillages, des mises en esclavage, des massacres, des vols, d'autres atrocités encore, parce que c'est ça que ça voulait dire, hein, chaque fois, ces incursions-là. Hein. Et ils ont dû se dire, ah, ça y est, maintenant, c'est fini pour nous. L'heure de la vengeance est arrivée, nous allons devoir payer, d'autant plus qu'ils voyaient autour d'eux tous ces soldats, avec leurs épées nues et étincelantes, leurs lances pointées, leurs arcs tendus, et le roi de Samarie tourné vers Élisée, et qui disait, frapperai-je mon père ? Et justement, cet Élisée-là était bien pressé de frapper, lui, c'est vrai, ce roi-là. Hein. Et Élisée n'avait qu'à faire un signe de tête. Cet Élisée même, qu'ils étaient venus faire prisonnier, ils ont dû avoir la peur de leur vie. Hein. Moi, je pense qu'ils ont eu la trouille de leur vie. Hein. Parce qu'ils ont réalisé d'un seul coup le danger de leur situation parce que leurs yeux étaient ouverts. Et c'était quelque chose à quoi ils ne s'attendaient pas. Vous savez, quand nos yeux s'ouvrent sur notre état de perdition, quand nos yeux s'ouvrent sur le fait qu'on est en route vers l'enfer parce qu'on n'est pas converti à Jésus-Christ, bien c'est quelque chose qui a de quoi vraiment nous faire peur. Alors moi, je vous dis franchement, je suis venu à Jésus-Christ parce que j'avais peur de l'enfer au début. Au début, je suis venu comme ça. Je ne suis pas venu parce que j'aimais Jésus. Hein. Je suis venu parce que je ne voulais pas aller en enfer et que le seul moyen, c'est de venir à Jésus-Christ. Après, mes sentiments, Dieu merci, ont changé. Mais ce n'est pas un mauvais sentiment, la peur. Hein. Si la peur nous évite le danger, eh bien, c'est une bonne chose. Et en tout cas, vous voyez, considérons la bonté de Dieu qui a voulu ouvrir les yeux de plusieurs sur leur état et qui veut ouvrir les yeux de plusieurs sur leur état encore. Voici le témoignage d'un homme qui avait eu bien de la peine à comprendre le salut, bien de la peine à l'accepter. Et puis quelqu'un lui demande un jour, mais comment est-ce que tu as fait pour y arriver au bout du compte ? Ah, il dit, mais voilà, c'était la chose la plus simple du monde. Il s'agissait simplement de présenter le bon ticket. Hein, ces tickets que vous achetez pour aller, je ne sais pas, au cinéma ou dans une manifestation publique d'un genre ou d'un autre. Et il n'y avait rien de marqué d'autre sur ce ticket que les mots suivants. Laissez entrer le porteur, un pécheur. Laissez entrer le porteur, un pécheur. Et il explique, il continue, ce qui m'a empêché si longtemps d'y entrer, c'est que j'ajoutais toujours quelque chose aux paroles qui étaient écrites sur le ticket quand je le présentais. Et quand le Seigneur voyait que j'avais ajouté quelque chose, il me renvoyait. Il me le refusait. La première fois que j'ai voulu entrer dans le royaume de Dieu, j'ai ajouté en bas du ticket, mais pas un aussi grand pécheur que beaucoup de mes voisins. Ah voilà, ça n'a pas marché. Bon, alors je l'ai gommé et j'ai écrit... Mais il fait tout ce qu'il peut pour s'améliorer. Alors, ça n'allait pas encore. Alors, je suis devenu anxieux et plein de crainte. Et j'ai prié, pleuré pendant longtemps. Et puis, sous les paroles « Laissez entrer le porteur, un pécheur », j'ai écrit « Qui prie et qui pleure sur ses péchés ?» Mais même ça ne marchait pas encore. Ça ne marchait pas encore. Après cela, j'ai commencé à désespérer. Et j'ai écrit « Un trop grand pécheur pour être sauvé ». Et ça ne faisait qu'aggraver les choses, et j'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai regardé à Jésus. Et là, je l'ai entendu dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Et je me suis souvenu que Jésus a dit, je suis venu pour appeler des pécheurs à la repentance. Alors j'ai sorti le vieux ticket, et sans rien rajouter, sans ajouter un mot, je l'ai présenté, il a été accepté, et je suis entré. Amen. Hein, c'est pas plus difficile que ça. Et Dieu veut nous ouvrir entièrement les yeux sur notre état pour que nous puissions venir à lui, être sauvés dès à présent et pour l'éternité. Amen, amen. Et puis, notre dernier point qui sera en même temps la conclusion. La bonté du prophète à l'égard de ces gens, qui est une image aussi de la bonté de Dieu pour nous. Vous savez... Parce qu'on arrive là, je relis ces versets 22 et 23, parce que quand même c'est quelque chose qui n'est pas courant hein, dans les relations entre États. Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia. Ben oui, bien sûr. Hein. Soyez persuadés que ces hommes n'ont jamais oublié cette bonté et cette grâce inattendue dont ils ont été l'objet. Et ce qui n'aurait pas pu être obtenu par la vengeance a été obtenu par la bonté. Les troupes de Syriens ne sont plus revenues agir. Vous savez, la bonté et la grâce sont des choses qui touchent le cœur. Amen. Hein. C'est un serviteur de Dieu qui s'appelait David McIntyre, donc un Écossais qui était amené à mener le service d'enterrement d'un autre serviteur de Dieu âgé, qui avait été un de ses amis de jeunesse. Ils avaient tous les deux servi le Seigneur. Et cet homme-là, donc, il avait travaillé pendant plus de 50 ans dans un petit village d'Écosse. Il était beaucoup aimé. Tout le monde le regrettait. Et David McIntyre raconte comment il a vu un vieil homme qui était là au bord de la tombe et qui pleurait amèrement. Alors il a essayé de le réconforter. Et quand il a été un peu calmé, il a raconté la cause de ses larmes. Plus de 50 ans auparavant, il était garçon berger. Et alors qu'il conduisait un important troupeau de vaches le long d'un chemin, voilà que plusieurs vaches affolées par je ne sais quoi se sont enfuies devant lui. Et à ce moment-là, effrayé, son troupeau s'est mis à courir dans tous les sens. C'est la confusion complète. Donc lui aussi, il a eu peur. Et juste à ce moment-là, le serviteur de Dieu qui venait de sortir de l'école biblique dans ce moment-là a apparu sur la scène. Et il a repris les choses en main et avec une patience tranquille, un peu de stratégie. Donc, il a rassemblé le troupeau pour le jeune garçon. Et il a continué son chemin en oubliant probablement l'incident parce qu'il était absorbé dans la pensée de sa prochaine prédication, de son prochain message. Mais le garçon, lui, n'oublia jamais. Hein. Pour lui, c'était comme si le Seigneur lui était venu à son aide ce jour-là. Et ce petit acte de bonté l'a attaché à Christ, à l'assemblée et au pasteur pendant plus de 50 ans, et toutes ces larmes, c'était des larmes de gratitude pour l'homme de Dieu qui avait tant signifié pour son âme. Voyez-vous, hein ? La bonté est deux fois en bénédiction. Elle bénit celui qui reçoit, elle bénit aussi celui qui donne. Amen. Hein ? Et si la bonté peut être ainsi manifestée par le serviteur de Dieu dans cette histoire-là, eh bien, combien la bonté du Seigneur, la bonté de notre Dieu, de notre Seigneur lui-même, mérite la gratitude et la reconnaissance de notre part. Combien, c'est vrai, sa grâce et sa miséricorde durent d'âge en âge. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Combien, si nous reconnaissons sa bonté, cela doit nous pousser à la repentance. Et combien nous pouvons ainsi venir à lui pour qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre notre cœur et nous fasse asseoir à ce festin de grâce et de bénédiction. Alors, si tu réalises maintenant que oui, peut-être tu as été aveuglé, que peut-être tu es aveugle dans telle ou telle chose par ta propre faute, que tu as pu passer à côté de merveilles de Dieu à cause de cela, veux-tu venir à lui maintenant ? Amen. Hein ? Si tu comprends maintenant que tu n'as pas cherché le conseil de Dieu et qu'à cause de cela, tu te retrouves dans le pétrin, puis il faut en assumer les conséquences, eh bien, est-ce que tu veux te tourner vers lui aussi pour en tirer les leçons, pour que cela puisse se tourner en bénéfice ? Amen. Hein ? Si tu réalises que peut-être à cause de ta crainte ou de ton souci ou ton intérêt personnel ou tes préoccupations, tu es passé à côté là encore du bon dessein de Dieu, du bon plan de Dieu pour ta vie, veux-tu te tourner vers lui en sincérité, en profondeur pour que le Seigneur puisse faire toute chose nouvelle. Le Seigneur désire nous faire grâce. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de presque toutes ses détresses. Amen. Non, c'est pas bien ce qu'il dit le pasteur. Il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Béni soit Dieu. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue les délaisse obtient miséricorde. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il mendra nos plaies. il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Puis une dernière remarque avant de conclure. Vous savez, Dieu a toutes les solutions. Dieu a toutes les délivrances. Lorsque je reviens à mon texte de départ et que je relis dans ce verset 17, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élysée. Qu'est-ce que cela voulait dire à ce serviteur qui était dans l'inquiétude, qui était dans l'angoisse, qui était dans la crainte? Certainement plusieurs choses. Oui, mes amis, plusieurs choses. La première, que Dieu est puissant et même surpuissant pour garder ou défendre son serviteur Élysée. Vous savez, un seul de ces chevaux et des chars de feu qui apparaît en face de toute l'armée des Syriens, tout le monde se sauve. Un seul. Il n'y en a pas un seul. Vous avez vu ? La montagne est remplie. Ça veut dire que Dieu est surpuissant. Dieu surpuissant pour garder son serviteur. Ça veut dire aussi, deuxième chose, que le lieu le plus sûr pour être en sécurité, ben, c'est de rester avec Élysée. Hein, c'est de demeurer près de lui, parce que, eh bien, on va être ainsi gardé par ces êtres glorieux qui viennent du Seigneur et qui étaient autour de lui. Et puis, c'est une troisième chose encore, ces chevaux et ces chars parlent aussi de l'enlèvement possible d'Élysée. Parce que si Élysée saute sur un de ses chars, il le fera échapper à l'encerclement des Syriens. Vous savez, il y a l'autre jour, j'ai vu une scolopendre. Vous avez déjà vu une scolopendre? Franchement, c'est moche. C'est une espèce de bestiole avec plein de pattes. C'est pire qu'un mille pattes encore. Parce que ça se tortille comme ça dans tous les sens. C'est carapaçonné, ça a plein de pattes sur tout tour. Et puis, il y a des espèces de grosses machins pour piquer devant en plus. Voilà. Et puis, je vois qu'il s'approche d'un papillon. Alors, apparemment, elle voulait régler son compte au papillon. Hein. Je pense que le papillon n'aurait pas. Qu'est-ce qu'il a fait, le papillon? Hop. On voit ce que le pendre. Voilà. Vous savez, Dieu peut nous délivrer comme ça. Hein. En tout cas, là, dans cette situation, Élysée, c'est ce qui aurait pu se passer pour lui. Hein. Donc, Élysée, bien, voilà, il suffisait de monter dans le char et puis c'était réglé, la question. Et puis, non seulement cela, ça montre que le Seigneur avait prévu de faire la même chose s'il avait besoin, pas seulement pour Élysée. Élysée n'a pas besoin de 50 chars, ni de je ne sais pas combien de chevaux. Il lui suffit d'un pour lui, non? N'est-il pas vrai? Ça veut dire qu'il y en avait aussi pour le serviteur. Et s'il y en avait, il y en avait pour tous ceux qui voulaient bien venir avec. C'est ça que ça voulait dire aussi. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y en avait pour tout le monde. Dieu a prévu large, mes frères et sœurs. Hein. Il n'y a pas de restriction dans l'œuvre de salut de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. La seule limite, c'est celle que nous mettons nous-mêmes. Hein. Celle que nous mettons nous-mêmes par incrédulité, par crainte qui nous aveugle, par propre volonté obstinée, rebelle, par refus d'écouter les paroles du prophète, par négligence de ses avis, de ses conseils. Et enfin, ces chevaux nous parlent d'autre chose. Ils nous parlent du grand enlèvement. Le dernier grand enlèvement dont il est question, ben, vous savez, quand il est question de chars et de chevaux, en rapport avec Élysée, il y a encore une autre situation où il est question de chars et de chevaux avec rapport avec Élysée. Vous vous en souvenez? C'est quand, ah oui, exactement, quand il a été sur le point de quitter, plutôt qu'Élie a été sur le point de quitter Élysée. Rappelez-vous. Hein. Il est marqué que quand Élysée est monté au ciel, sans passer par la mort, dans 2 Rois 2, verset 11, il est marqué « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élysée le regardait et criait « mon père, char d'Israël !» et sa cavalerie. » Et ces nombreux chars et ces nombreux chevaux qui sont là nous parlent du grand nombre que le Seigneur veut enlever dans sa gloire. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui nous a donné la doctrine de l'enlèvement de l'Église, hein, essentiellement dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Hein. Donc c'est lui qui a reçu la doctrine. Mais la réalité de l'enlèvement était dans la pensée de Dieu depuis bien avant. Là, vous avez la preuve, une preuve, hein, une preuve qui est là. C'est que ces chars de feu, ces chevaux de feu, ils sont là pour enlever du monde dans la gloire. Et combien, eh bien, ceci nous rappelle aussi comment nous pourrons nous-mêmes être prêts pour cet enlèvement. Et c'est là aussi pour nous encourager, je pense, dans cette direction. En tout cas, mes frères et sœurs, soyons et restons persuadés que même dans les situations de confinement les plus compliquées qui peuvent nous paraître sans issue et sans solution, non seulement le Seigneur a une solution, mais le Seigneur a le choix des solutions et il agira pour mettre en œuvre la meilleure solution. La solution royale, si j'ose dire, la solution parfaite pour ceux qui cherchent son conseil, sa volonté et qui lui font confiance. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons encore, te remercions parce que tu es encore le Dieu vivant.